Tenir encore, simplement. Nous éprouvons le besoin de recevoir de ta main, de ton cœur, toutes les facultés nécessaires d'attention, de compréhension, de perception de ta parole. Et bénis cet après-midi, que nul d'entre nous ne passe à côté du rendez-vous que tu lui as fixé et du message que tu veux lui délivrer. Nous te bénissons parce que nous avons en toi le vouloir et le faire. C'est là ton bon plaisir pour chacun des tiens. Merci de tout cœur, en son nom. Amen. Nous reprenons la lecture de ce passage lu déjà ce matin, dans sa totalité, c'est-à-dire 1 Roi 17, les 16 premiers versets. 1 Roi 17, versets 1 à 16. 1 Roi 17, versets 1 à 16. Où le prophète Élie sort de cette dimension de vie cachée, incognito, dans la présence de Dieu, dans ces forêts profondes de cette région de Galaad, si souvent mentionné dans les Écritures, pour surgir aux portes du palais royal à Samarie, et où il dit à Achab, verset premier, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car... Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Puis nous allons, à la fin de notre Nouveau Testament, Et à la fin de la première épître de Jean, fin de la première épître de Jean, c'est-à-dire au chapitre 5, où je soulignerai pour nous les versets 19 à 21. 1 Jean 5, 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, littéralement dans le malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, connaître dans le sens le plus fort du terme, hein, une connaissance qui est un partage absolu de tout ce que l'on a et de tout ce que l'on est avec celui qui nous aime, connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous avons successivement considéré, depuis avant-hier soir, l'épreuve du temps, dans ce travail de Dieu dans nos vies pour une fidélité croissante, de plus en plus ressemblante, de la même nature que celle de notre Sauveur bien-aimé. Vivre dans le temps de Dieu. Puis l'épreuve du lieu. Vivre dans le lieu de Dieu, au diapason de Dieu, dans le là de Dieu, disions-nous hier soir. Et puis enfin, ce matin, l'épreuve du silence. Vivre dans le silence de Dieu. Dans ce silence qui nous est tellement inconfortable, si souvent tellement déstabilisateur, inquiétant. Alors qu'il est dit dans les Écritures, c'est une des possibilités de traduction et de compréhension du texte hébreu dans Sophonie 3, « J'aurai pour toi, dit l'Éternel, des transports d'allégresse et je garderai le silence dans mon amour. » Il y a des silences de Dieu qui sont les silences de l'amour. Tout comme dans un couple d'hommes et femmes mariés, il est des silences de l'intimité qui parlent plus que les plus beaux discours. Épreuve du temps, épreuve du lieu, épreuve du silence. Nous aurions pu longuement développer les quatrième et cinquième leçons du Torah. Peut-être y en a-t-il d'autres. En tout cas, ce sont celles auxquelles j'ai été sensible, que j'ai pu comprendre dans l'approche des Écritures. Nous aurions pu évoquer l'épreuve du regard, l'œil dans les Écritures, grand thème encore. L'épreuve du regard, vivre le regard sur Dieu. Ceci tout simplement, et je ne donnerai qu'un embryon de réflexion, très court donc. Ceci tout simplement en nous mettant dans la peau d'Élie ou à sa place. Tout d'abord, alors qu'il vient de déposer sa valise dans la caverne et qu'il s'approche du torrent, tellement reconnaissant. Comme nous l'avons si souvent souligné depuis avant-hier soir, pour cette bénédiction de Dieu, ce don du ciel, qu'est l'eau vive et fraîche d'un Dieu infiniment généreux. Et je l'imagine, en tout cas, c'est ainsi, il me semble, que me connaissant, je l'aurais vécu. Devant ce torrent, j'aurais sans doute fait ce qu'il m'est arrivé de faire devant de magnifiques paysages, que ce soit en bordure de mer, que ce soit dans la montagne, que ce soit face à un magnifique coucher de soleil, devant une de ces beautés extraordinaires d'une création qui pourtant souffre les douleurs de l'attente de la venue du Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Ou du retour du Fils de Dieu. Dans ces moments-là, on a en quelque sorte envie, on le fait parfois, de lever les yeux vers le ciel pour exprimer notre désir de dire à Dieu notre reconnaissance, comme l'ont fait dans l'histoire les Israélites si souvent. Ça faisait partie de toute la gestuelle très très variée d'ailleurs du culte juif. Je te loue, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur pour ce torrent. Seigneur, merci pour ce beau cadeau. Alors ça, c'est le début. Les mains et les yeux levés vers le ciel, dans la louange, dans l'adoration. Et puis, le lendemain, insensiblement, sans même que nous nous en rendions compte, les mains montent un peu moins haut et l'élan de l'accent de reconnaissance est déjà quelque peu moindre. Et tandis que les jours s'écoulent, pendant lesquels 24 heures sur 24, l'eau du torrent continue à suivre son cours avec cette musique perpétuelle, cette symphonie ininterrompue de la bénédiction de Dieu retentit peu à peu pourtant la tonalité de l'expression de notre louange et de notre adoration baisse de plus en plus. C'est du « je te loue, oh je te loue, je te loue, je te loue ». Et au fil des jours, notre regard intérieur change de direction. Tout d'abord, c'est vraiment vers lui, vers le donateur, que nous élevons nos cœurs. Quelques jours plus tard, c'est vers nous que nous regardons. Et quelque part, nous capturons le don de Dieu parce que nous y mettons quelque chose de nos mérites. Hein. L'orgueil est tellement fortement attaché à nos cœurs. Et subrepticement, des impuretés, des scories se mêlent à notre adoration parce que notre chair répond à ces suggestions perfides de la puissance des ténèbres, parce qu'elle est toujours prête à répondre. Hein. Et nous en venons à dire, après tout, s'il y a un torrent ici à ma disposition, pour moi tout seul même, c'est que je l'ai un peu mérité. Parce que quand même, j'ai été fidèle, j'ai été courageux, j'ai été obéissant. Et nous finissons par nous flatter de la générosité de Dieu à notre égard, au point que nous ne considérons plus le Dieu généreux. Il y a donc un lent changement de centre de gravité depuis Dieu, le généreux donateur, vers le torrent, ce précieux don de l'Éternel. Et voilà pourquoi Dieu assèche les torrents qui accaparent notre regard pour que nous fixions de nouveau nos regards sur lui et dépendions de lui seul. Le Dieu fidèle, parce qu'il nous aime et qu'il vise à une transformation en profondeur de notre mentalité et donc de notre comportement tout entier, le Dieu fidèle travaille sur notre regard. Parce que l'apôtre Paul le dira de manière si forte et suggestive dans 2 Corinthiens 4, 18 et 5, 6 à 7, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car, et ça c'est le torrent de Kérit, car les choses visibles sont passagères. Et le torrent de Kérit fait partie de ces choses passagères. Et les invisibles sont éternels. Nous sommes toujours pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non par la vue. Toujours signe de stabilité, de persévérance. Et la stabilité et la persévérance de la confiance et de la fidélité sont liées à la qualité et à la direction de notre regard. Alors nous aurions pu développer cette éducation du regard face à l'éphémère. Le livre existe, je vous y renvoie. Simplement parce que il m'a semblé bon, en réfléchissant devant Dieu pour cet après-midi, que nous nous penchions sur les torrents d'hier et d'aujourd'hui. Que nous terminions par une actualisation, une adaptation plus pointue, qui va aussi nous aider dans bien des domaines où nous rappeler des choses essentielles. L'idée, c'est de répondre à cette question: sous quels aspects, au pluriel, le torrent de Kérit peut-il se présenter à moi aujourd'hui? Quelle réalité concrète recouvre-t-il pour chacun d'entre nous? Alors, nous aurions pu aussi considérer la cinquième des grandes leçons du torrent de Kérit, à savoir l'épreuve de la faiblesse. L'épreuve de la faiblesse, tout simplement parce que ce torrent, dont le niveau baisse, et là nous entrons déjà quelque peu dans notre sujet plus pointu de cet après-midi, ce torrent dont le niveau baisse, ce sont par exemple mes propres forces, ma puissance physique, ma résistance nerveuse, mon excellente mémoire qui me joue des tours, mes capacités intellectuelles, mon savoir, mes ressources propres dans tous les domaines, qu'elles soient d'ordre financier, matériel ou autre, mon CV plus ou moins prestigieux, mon habileté manuelle, mes relations humaines, et nous pourrions ainsi ajouter une multitude de cordes à cet arc déjà impressionnant. Et voyez-vous, tout cela s'avère si souvent impuissant, insuffisant pour nous sortir de nos situations difficiles. Et c'est toujours frappant d'être en face de quelqu'un qui, qui semble être né avec une cuillère d'or dans la bouche, et qui semble bénéficier des privilèges les plus extraordinaires qu'on puisse posséder sur cette terre. Il a vraiment une multitude de cordes à son arc. Et pourtant, le voici qui, du jour au lendemain, malgré sa puissance financière extraordinaire, malgré ses capacités intellectuelles fantastiques, malgré ses relations mondaines, hors pair, hors normes, le voici complètement impuissant. Dans la situation difficile qu'il traverse. Et c'est souvent là qu'enfin le Seigneur peut véritablement le rencontrer. Nous l'avons dit, la fin de l'homme est le commencement de Dieu. Nécessité donc de considérer la nécessaire épreuve de la faiblesse. Nous avons, vous et moi, besoin d'être confrontés avec des situations où toutes nos capacités, toutes nos relations sont totalement impuissantes pour nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous avons à faire face. C'est alors que nous commençons à réaliser que seule la grâce du Dieu fidèle peut nous sortir de là. Et c'est sur cette réflexion qui introduit ce thème de l'épreuve de la faiblesse que le Fils de Dieu a vécu par excellence au milieu des hommes. C'est dans la plus extrême faiblesse que Dieu a triomphé de la puissance des ténèbres. Au moment où l'ennemi puissant croyait que le tour était joué, qu'il avait la victoire, la mort de Jésus-Christ sur la croix a signé le triomphe de la faiblesse la plus absolue, celle qui déjà prévalait à l'heure de l'incarnation dans la crèche de Bethléem. Et c'est sur cette base-là que nous pouvons répondre à cette question que j'évoquais il y a un instant, sous quels aspects le torrent de Kérit peut-il se présenter à moi aujourd'hui ? Eh bien, nous dirons que tout d'abord, en réponse d'ordre général, le torrent, c'est tout ce qui peut se glisser à la première place dans ma vie. Le torrent, c'est tout ce qui s'intercale entre le Christ et moi. Et en prononçant ces mots, en disant cela, je viens tout simplement de donner la définition fondamentale de l'idole. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce qui s'intercale entre le Christ et moi. Oh, dans la première épître de Jean, l'idolâtrie, c'était notamment le message pernicieux des faux docteurs qui s'appuyait déjà sur quelques dizaines d'années de préparation, peut-être oui, 25 ans même, de préparation de fausses doctrines de plus en plus élaborées qui se sont épanouies, tristement épanouies à la fin du 1er siècle dans ce qu'on a appelé le gnosticisme. Gardez-vous des idoles que représentent les faux docteurs avec leurs doctrines pernicieuses dans lesquelles ils utilisent un langage orthodoxe, nous dirions aujourd'hui évangélique, mais le contenu des mots, lui, n'est pas orthodoxe. La forme est orthodoxe, le contenu est mensonger. Et il y avait dans l'Église de Jésus-Christ de la fin du 1er siècle, je pense aux sept lettres du début de l'Apocalypse, alors qu'il y avait peut-être au moins une centaine d'églises en plein développement dans ces régions d'Asie mineure, à la lecture de ces sept lettres, on se rend compte de l'idolâtrie qui posait problème dans un certain nombre de ces églises à cause des faux docteurs. Quelle est la devise du prophète Élie? C'est en 1970, en septembre 1970, au début du mois de septembre, que nous étions fiancés, d'ailleurs, mon épouse et moi, nous sommes mariés le 10 octobre 1970, et donc en septembre, nous rentrions de la Belgique vers la Bretagne en passant par la Suisse, où j'avais une semaine d'enseignement biblique à donner dans une salle neutre de la ville de Lausanne par un certain nombre de croyants qui avaient désiré organiser un séminaire. Et c'était le thème de la vie d'Élie, de l'ensemble de la vie d'Élie que j'avais traité à cette occasion. Et j'avais notamment évoqué cette devise du prophète Élie: Messire, Dieu premier servi. Bien entendu, c'est celle de Jeanne d'Arc. Nous habitons dans l'Orléanais, je ne savais pas à cette époque que nous nous installerions finalement en fin 1979 dans la région d'Orléans. Messire, Dieu premier servi. Pourquoi? Simplement parce que par la bouche du prophète, l'Éternel dit à la veuve de Sarepta: prépare-moi d'abord, nous l'avons dit ce matin, tu en feras ensuite pour toi. Moi d'abord, toi ensuite. Et en réalité, lorsque le prophète Élie dit cela de la part de Dieu, c'est le reflet de sa pratique personnelle dans sa relation avec Dieu. Dieu d'abord, moi ensuite. Messire, Dieu premier servi. Pour l'anecdote au passage simplement, puisque nous parlions ce matin de ce Dieu étrange qui nous surprend, c'est le soir, dans cette série d'études où je donnais l'étude spécifique intitulée Messire Dieu premier servi, non pas celle de ce soir, de cet après-midi, mais une étude consacrée uniquement à la veuve de Sarepta, que s'est passé quelque chose d'assez étrange dans cette salle, où au premier rang, une salle bien garnie, au premier rang, il y avait un couple dont nous avions fait connaissance, que j'avais connu au fil de mes études. Ils étaient là, si, ils suivaient très attentivement l'enseignement, le mari prenait des notes, et je ne savais pas que, sans un seul instant évoquer, bien entendu, notre situation personnelle, en tant que fiancé officiel, étant sur le point de nous marier, Dieu était en train de parler à son cœur et à celui de son épouse sur ce thème, Messire, Dieu, premier servi. Et que disait Dieu à ce couple, qui ne savait absolument rien, n'est-ce pas? Jour après jour, depuis quelques semaines, Tina et moi, nous prions en disant, Seigneur, nous allons travailler ensemble dans le ministère. En Bretagne, nous sommes sur le point, après notre mariage, de démarrer ce ministère. Nous n'avons pas de voiture. Et nous n'avons pas de soutien financier sur lequel nous puissions nous appuyer. Et nous ne voulons pas faire de publicité, où que ce soit, pour susciter les dons. Mais Seigneur, nous voulons vraiment t'en parler. Tu connais notre besoin. C'est toi qui nous as appelés à ton service. C'est toi qui nous as appelés sur ce champ missionnaire de la Bretagne, dans cet endroit qui s'appelle Paimpol. Seigneur, entends notre prière. Et ce soir-là, ce frère Sur sa feuille, où il prenait des notes, s'est subitement arrêté d'écrire des mots pour faire un dessin. Dessin que je possède. Je possède son manuscrit des notes prises ce soir-là, puisqu'il me l'a donné plus tard. Et le dessin représentait le profil d'une voiture. Et d'une voiture bien précise. À l'intérieur de ce profil de voiture, il y avait M.D., Maurice Decker. Et Dieu a dit à ce couple ce soir-là, parce qu'il lui en avait donné les moyens, Dieu donne ce qu'il ordonne. Vous allez acheter une voiture à Maurice et Tina, futur Decker. Il ne savait pas, je le répète. Et curieusement, bon, bien sûr, je ne lorgnais pas pour voir ce que faisait cet ami qui, il était sans doute pas assez prêt. Mais ce soir-là, comme tous les soirs, après chaque réunion, nous remontions au-dessus de Lausanne, à quelques 900 mètres d'altitude, où nous étions avec une vieille amie, une femme de prière remarquable, et où nous vivions cette semaine. Et nous allions, avant le repos de la nuit, prier ensemble, dans le calme de la nature. C'était tellement agréable. Et ce soir-là, deux choses se sont passées. Tina s'est tournée vers moi et m'a dit, je ne me souviens plus des termes exacts, mais elle m'a dit, ce soir pendant que tu parlais, j'ai reçu la conviction de Dieu en pleine réunion que notre prière était exaucée. Nous ne savions rien. Et donc ce soir-là, le contenu de notre prière s'est modifié. Et par la grâce de Dieu, nous avons simplement dit, écoute Seigneur, merci. Nous ne comprenons pas comment, mais puisque tu as posé sur le cœur de celle qui va être mon épouse dans 3 semaines, cette certitude de l'exaucement, nous voulons te dire un grand merci. Et c'est quelques jours plus tard, lorsque nous devions quitter Lausanne pour rejoindre la Bretagne, mais en nous arrêtant à Lyon, ville dans laquelle j'avais étudié, dans laquelle je m'étais joint à une église évangélique, alors que nous nous apprêtions à partir, le téléphone a sonné, et c'est ce couple, nous ne savions toujours rien, qui nous a dit, écoutez, nous aimerions vous offrir un service. Puisque vous partez sur la Bretagne, mais que vous vous arrêtez à Lyon, nous vous proposons de vous accompagner en voiture à Lyon, parce que cela, nous le savons, va vous faciliter la tâche, puisque vous avez reçu un certain nombre de cadeaux de mariage. Et cela vous embarrasse très certainement pour votre voyage en train. C'était un cadeau déjà merveilleux en lui-même. Et donc, sans ajouter un seul mot de plus, ils nous ont embarqués dans leur voiture, avec tout notre attirail, et arrivés à proximité de l'agglomération lyonnaise, ce cher frère, qui est devenu d'autant plus cher après, mais il l'était déjà, de dire, écoutez, j'ai un rendez-vous d'affaires, il était ingénieur, j'ai un rendez-vous d'affaires, et pendant ce rendez-vous d'affaires, allez donc déjeuner avec mon épouse à tel endroit, dans tel restaurant, des places ont été réservées, et je vous donne rendez-vous cet après-midi. Je viendrai vous chercher. Et donc, ainsi fut fait. Et au début de l'après-midi, il est venu nous chercher, et nous étions intrigués. Jusqu'à ce que nous arrivions chez un concessionnaire Renault, et qu'il nous mette devant notre voiture neuve, avec tout le tralala. Je ne vous dis pas la suite, parce qu'il y a eu d'autres interventions de Dieu au niveau de notre assurance voiture. Mais d'un autre à un autre degré. Nous avons un Dieu extraordinaire. Messire Dieu premier servi. Oh, rassurez-vous, nous avons connu les moments d'abondance, nous avons connu les moments de disette. J'ai connu ce statut glorieux de chevalier de la bourse plate. Et il m'est arrivé de ne plus avoir un rond. Mais vraiment au sens le plus fort du terme. Si je vous disais, mais je n'entrerai pas dans les détails, qu'il m'est arrivé une fois d'être sur un quai de gare, le train étant annoncé, je n'avais pas de ticket. Et je n'avais pas d'argent pour payer le ticket. Mais je savais avec une certitude absolue que j'étais en voyage commandé par Dieu. Et c'est sur le quai que Dieu a donné la solution. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même s'il y a des moments où on tire un peu la langue, parce que c'est la meilleure manière de nous identifier à celui et celle qui est dans le besoin. Alors ça, c'était une parenthèse, mais pas tellement finalement, parce que je dis qu'avec Dieu, nous n'y perdons rien dans cet apprentissage. C'est tellement plus beau et plus riche. Messire Dieu premier servi. L'auteur d'un livre très intéressant sur le déclin spirituel et le retour au Seigneur, traduit en français, écrit ceci. Que dit la voix divine dans chaque torrent qui la sèche, au travers de toute plante qu'il flétrit, et dans toutes les déceptions dont il entoure les biens de ce monde? Elle vous parle, cette voix divine, et vous dit: mon enfant, donne-moi ton cœur. Je veux ton amour, ton affection suprême, sans mélange. Je veux être le seul et unique objet de ton plaisir. J'ai donné mon fils pour toi et sa vie pour racheter la tienne. J'ai envoyé mon esprit pour te vivifier, te renouveler, te sceller, et afin que je te possède. J'ai fait tout cela afin d'avoir ton cœur. Dans ce même but, j'ai aussi frappé tous tes conforts. J'ai ôté tes idoles et brisé tous tes appuis terrestres. J'ai cherché à détacher tes affections des choses de la terre afin que ton amour s'élève entier et libre et vienne s'enrouler autour de celui qui t'aime d'un amour éternel. Alors, à partir de là, donnons une réponse encore plus précise à notre question: quelle réalité concrète recouvre le torrent de Kérit pour chacun de nous? Eh bien, le torrent de Kérit, c'est toute bénédiction. Je le dis bien, toute bénédiction. Tout don de Dieu qui, à un moment ou à un autre, peut venir s'intercaler entre le Christ et moi. Et de ce fait, devenir une idole. Ça apparaît banal quand on n'y prête pas garde, quand on écoute trop vite. Parce que, remarquons que le piège est subtil. J'ai souligné de la part de Dieu que les meilleurs cadeaux, les plus grandes bénédictions, les biens les plus légitimes, les réalités les plus spirituelles peuvent devenir les pires ennemis de la fidélité du croyant. Parce que dans les premiers éléments d'une foi naissante, néophyte, lorsqu'on est encore au stade de l'enfance, mais parfois, hélas, et c'est triste, le stade de l'enfance dure 40 ans et un bébé de 40 ans, c'est pas beau du tout. On continue à avoir ce type de raisonnement qui consiste à dire que l'idole, c'est quelque chose de moche. C'est aussi moche que les kémoches et les molochs et les baals et astartés qui, hélas, fleurissaient en Israël en temps de décadence et de prostitution spirituelle. Nous avons cette mentalité qui veut bien voir dans l'idole tout ce qui est laid et sur lequel on peut aussitôt plaquer l'étiquette péché. Et puis peu à peu, on réalise en avançant avec le Seigneur que toutes les idoles ne sont pas grossières. Toutes les idoles ne sont pas repoussantes. Toutes les idoles ne sont pas hideuses. Et puis ensuite, on réalise aussi que cette sorte de métamorphose, quelque part, des meilleurs bienfaits de Dieu en idole détestable, c'est un processus qui peut être lent, insidieux, sournois, et qui nous vaut un jour de nous réveiller parfois après de longs mois, de lent travail progressif de sape dans nos vies de la Seigneurie de Christ, de nous réveiller en réalisant avec horreur qu'effectivement ce qui était bénédiction à l'origine est en train de devenir élément destructeur de notre vie avec le Seigneur. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dans un livre de méditation remarquable, Steinberger écrit ceci. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit dans la bénédiction de l'Éternel de Nombre 6, une des grandes bénédictions en Israël, Nombre 6, 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Et l'auteur d'ajouter, nul n'a plus besoin d'être gardé par Dieu que celui qui est béni de Dieu. Il n'est pas une bénédiction que l'ennemi ne cherche à souiller de sa main. C'est pourquoi prends garde aux bénédictions reçues. Oh, loin de moi la pensée de vous entraîner vers une sorte de vigilance agressive, malsaine, dépourvue de paix, qui ferait de nous des êtres nerveux, constamment sur la défensive. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu nous invite et nous ordonne une vigilance active mais paisible, qui lui fasse confiance, mais qui est aussi liée à cette intimité permanente avec lui qui fait que nous allons être attentifs aux petits voyants qui se mettent subitement à clignoter sur le tableau de bord de notre vie avec le Seigneur. Il est des voyants que nous ne voyons pas s'allumer, tellement nous fonçons, n'est-ce pas, sans prendre le temps de nous asseoir dans sa présence. Alors continuons à préciser, n'est-ce pas, nous sommes en train de régler progressivement un microscope, hein. Nous sommes partis d'une généralité, nous l'avons déjà affiné, mais toujours sur un plan général. Maintenant, regardons de très près le contenu de ces catégories de bénédictions, parce que nous pourrions passer des semaines à les évoquer. Quels sont ces meilleurs cadeaux de Dieu, ces plus grandes bénédictions, ces biens les plus légitimes, ces réalités les plus spirituelles qui peuvent devenir les pires ennemis de la fidélité du croyant? Eh bien, le commencement veut, je le crois, que nous évoquions tout d'abord les personnes. Les personnes. Le torrent de Kérit, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, une communauté de personnes. Qui sont ces personnes? Ceux que nous appelons peut-être nos parents spirituels, c'est-à-dire celui, celle qui a été, je dirais, le dernier maillon d'une longue chaîne d'interventions providentielles et souveraines de Dieu en vue de notre salut. Et le dernier maillon, vous le savez, c'est un maillon qui nous touche de près. Il nous a aidés peut-être à faire le dernier pas. On l'a à cœur. C'est une sorte de papa, une sorte de maman dans la foi. Souvent des relations plus particulières s'établissent entre celui ou celle qui nous a conduits au Christ mort et ressuscité et nous. Et je pense ici à, c'est vrai, aux relations particulières que nous avons avec certains bien-aimés. Je pense à un de ces bien-aimés dont j'apprécie tellement le témoignage et que nous avons vu venir à la connaissance de Jésus-Christ en janvier 1971. Nous nous sommes séparés parce que nos chemins se séparaient sur l'appel de Dieu, un ministère qui nous obligeait à quitter la Bretagne en décembre 1979. Et voilà un de ses bien-aimés qui n'a jamais manqué depuis 1979 de nous écrire une lettre, une fois par mois. Je dis bien jamais manqué. Depuis que nous nous sommes quittés, des liens nous unissent. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et c'est pour nous aussi édifiant que cette fidélité, c'est vrai, toute particulière à Dieu, mais ce désir aussi de relations fidèles, les uns avec les autres ou l'un avec l'autre. Mes parents spirituels, des hommes et des femmes de Dieu, simplement. Des donateurs. De ceux et celles qui peuvent devenir mon torrent de guérite. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son regard de l'Éternel, Jérémie 17:5. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il, Ésaïe 2:22. Ne vous confiez pas aux grands, Psaume 146 verset 3, et nous pourrions ainsi continuer. La quasi-litanie des textes qui nous mettent en garde, dans ce domaine. Que voulons-nous dire? Attention dans nos vies de ne pas passer de la relation saine à la relation de dépendance. Attention aux amitiés trop fortes, à l'admiration aveugle, à l'attachement qui devient exclusif. Certes, dans un couple homme-femme marié, il doit y avoir attachement exclusif. Et pourtant, cette exclusivité doit être relative. Non pas dans la relation horizontale, une seule source, une seule fontaine, disent les Écritures dans le Cantique des Cantiques. On ne va pas boire à toutes les eaux, c'est un avec une. Et c'est prévu dans le plan de Dieu pour toute la vie. Mais lorsque je relativise cette exclusivité ou cet exclusivisme au sens noble du terme, c'est dans le domaine, à cause du domaine vertical. Même avec mon épouse, puisque pour moi je suis homme, le Seigneur Jésus s'intercale entre mon épouse et moi. Et c'est absolument fondamental. Que ce soit toujours lui qui soit mon premier regard. Sous peine, si je l'oublie, de provoquer tôt ou tard des dérèglements, des situations conflictuelles. Que Dieu permet, quand le conjoint devient une idole. Toujours garder un espace suffisant pour que le Seigneur soit entre l'autre et moi. C'est la distance nécessaire pour pouvoir rester objectif.
autant que faire se peut, pour pouvoir aimer du véritable amour, qui nécessite, même dans les relations conjugales, parfois du courage, associé à la nécessaire courtoisie, bien sûr, distance nécessaire pour aider l'autre avec sagesse, distance nécessaire pour ne pas être entraîné dans la chute d'autrui, tant il est vrai que plus nous sommes proches de l'autre, plus ou moins nous voyons souvent les problèmes de l'autre. De la même manière que lorsque vous écrivez à la craie blanche sur le tableau noir, si vous avez le nez fixé sur le tableau sans prendre de temps en temps un peu de recul, vous êtes tout étonné d'entendre subitement les gens rire parce que vous venez de faire une de ces fautes. Vous ne l'avez pas vu. Vous avez le nez sur le tableau. C'est ainsi dans nos relations, les uns avec les autres. Et voyez-vous, Dieu doit parfois assécher des torrents d'amitié divinisée. Il provoque des tests, des ruptures, des séparations douloureuses pour revenir à la première place. Ce qui a fait écrire à quelqu'un, un de ces hommes à la piété bienfaisante du XVIIe siècle, il se peut que Dieu enlève les citernes crevassées, entre guillemets, de vos relations humaines, afin de vous donner beaucoup plus de la source d'eau vive qui réside en lui. Il a obscurci le scintillement de l'étoile afin de porter vos regards sur l'éclat du soleil. N'est-il pas lui-même meilleur qu'Œdipe ? Ne regardez pas ce qui vous arrive tant comme une perte temporelle que comme un gain spirituel. Les consolations de ce monde traînent de la lie avec elles. En revanche, celles que l'on retire des greniers de la promesse sont à la fois pures et douces. Il y a 3 ou 4 jours, le téléphone a sonné, et c'était encore un jeune adulte de 22, 23 ans peut-être, pas le même que celui dont nous nous entretenions hier soir, qui téléphonait, après en avoir reçu le conseil, parce qu'il était au Seigneur, il avait fait une première expérience d'approche du Seigneur, qu'il avait pendant un certain temps appelé sa conversion à Christ, un peu plus de 4 ans en arrière par rapport à cette semaine. Et puis, très peu de temps après, il avait décidé de prendre ses libertés vis-à-vis de ce Dieu qu'il était en train de découvrir. Et la puissance des ténèbres en avait profité pour le jeter dans les bras d'une jeune fille qui ne connaissait rien de Jésus-Christ. Et donc, cet éloignement volontaire de ce premier contact plus personnel avec le Dieu vivant avait favorisé une relation qui s'est approfondie, qui a bien sûr abouti à l'échange sexuel et qui a duré 4 ans. Mais bien sûr, au fil du temps, cet ami a vécu une vie de plus en plus inconfortable, et l'inconfort, le malaise, est devenu tel que non seulement il a cessé de bien dormir ses nuits durant l'été passé, mais il est tombé malade. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que son mal-être était lié à son abandon du début d'une relation avec Dieu, qui n'était encore qu'au stade décisionnel, en fait, sans qu'on puisse forcément parler de nouvelle naissance. Il y avait une sorte de début de gestation qui allait certainement aboutir, au bout d'un certain temps, à une véritable nouvelle naissance. Mais il avait goûté. Et il ne pouvait plus vivre maintenant sans de temps en temps retourner à ce qu'il avait goûté. Et c'est dans ce malaise terrible que finalement, tout seul, sans le conseil de quiconque, dans son mal-être, qu'un jour, de la fin de l'été, donc il y a peu de temps, peut-être une dizaine, une quinzaine de jours, il a dit, écoute Seigneur, je capitule. Et à ce moment-là, le travail du Saint-Esprit en lui a redoublé et s'est orienté plus spécialement vers sa relation avec la jeune fille qu'il fréquentait depuis 4 ans. Et donc c'est ce mal-être beaucoup plus profond qui l'a conduit à décrocher le téléphone en me disant « Mais dites-moi, comment vous voyez la chose ?» Alors nous avons eu un long entretien au téléphone. Et il est arrivé un moment où j'ai dû lui dire « Si tu n'es pas disposé à confesser la seigneurie de Jésus-Christ, non seulement des lèvres, mais dans ton comportement, dans ta vie quotidienne, permets-moi de douter de la profondeur de l'expérience que tu as faite et de considérer que tu n'es pas forcément né de nouveau. Parce que si vraiment tu es né de nouveau, Dieu va te donner la force de rompre une relation qui en fait est en train maintenant de s'inscrire entre la lumière et les ténèbres. Et j'ai dû lui ajouter ceci. Si tu n'es pas prêt à cette rupture, en remettant totalement l'avenir, sans aucun calcul de récupération. Si vraiment tu ne veux pas, avec le secours tout-puissant du Saint-Esprit, vivre cette rupture pour donner ton présent et ton avenir à Dieu complètement, cela veut dire que Jésus-Christ n'est pas ton Dieu, mais qu'en fait, tu cultives une relation idolâtre avec cette jeune fille. Tu dois choisir entre le Dieu vivant et une idole. L'entretien s'est très bien passé. C'était difficile pour lui. Je souffrais avec lui parce qu'on le sent, la souffrance de quelqu'un qui a vécu comme cela. Et puis j'ai eu le lendemain son papa. Et son papa m'a dit, c'est curieux, notre fils, après l'entretien au téléphone avec vous hier, à un moment donné, il nous a dit, mais je dois reconnaître que cette jeune fille est une idole dans ma vie. Je dois donc aller la voir cet après-midi pour rompre ma relation avec elle. Le faire avec courtoisie. Et je lui ai donné quelques conseils pratiques pour l'aider, parce qu'on peut faire de la casse. Et maintenant, j'attends un coup de téléphone de sa part. Si j'ai simplement raconté et brièvement résumé cette histoire, c'est parce qu'elle est une démonstration de ce qui peut être notre problème aujourd'hui. J'ai croisé tout au long des 2 ou 3 dernières années, avec une densité toute particulière, des hommes et des femmes, membres engagés dans des églises, parfois même au service de Dieu, comme on dit, à temps complet. Hein. Pardon de notre petit vocabulaire un peu spécial. Hein. Mais dont le problème était là. Ils étaient placés devant un choix où il fallait rompre avec ce qui était devenu dans leur vie un torrent de kérite, mais dont ils avaient fait une idole. si bien qu'ils étaient entrés dans une situation extrêmement difficile, mais ils luttaient contre Dieu à cause de cette situation idolâtre. Oh, nous avons dans les Écritures de nombreux exemples à cet égard. Pensez à un torrent de Kérite dans l'Ancien Testament qui s'appelle Isaac. Isaac a été le torrent de Kérite d'Abraham. Du vieux papa Abraham. Pensez donc à cette promesse répétée, nous l'avons dit depuis vendredi soir, pendant 25 ans. Dieu lui a promis une postérité issue de leur vie de couple qui a conduit Abraham et Sarah à s'interroger continuellement, à se dire, mais est-ce que nous avons bien compris? Est-ce que ce n'est pas par le biais de tel ou tel serviteur, finalement? Est-ce que ce n'est pas par le biais d'Agar, la servante égyptienne? Vous connaissez tout cela. Et puis enfin, au bout de 25 ans, la promesse de Dieu s'accomplit. Vous imaginez pour ce vieux père, qui en même temps est un tout jeune père. Tout ce que pouvait bien représenter ce fils de la promesse. Combien il a dû le couver de ses yeux et le chérir de toute sa tendresse. Et puis les années sont écoulées. D'après l'historien juif Flavius Joseph du 1er siècle, qui nous a laissé pas mal d'écrits, si je me souviens bien, lui prétend, ce n'est pas vérifiable, certains rabbins disent autre chose, mais lui prétend que quand Isaac a accompagné son vieux père jusqu'à la montagne du sacrifice, dans Genèse 22, il avait peut-être 25 ans. Si c'était vrai, et même si ce n'était pas vrai, mais qu'il en ait la moitié, vous imaginez ce que ça représente de voir son enfant après 25 ans d'attente, avec un si prestigieux avenir, puisque c'est encore par lui qu'allait se développer cette descendance qui aboutirait à la venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas, sur la terre. Vous imaginez tout ce que cela a signifié de voir cet enfant grandir, année après année. Le bonheur de ce vieillard et de son épouse, jusqu'à cet ordre de Dieu qui est un véritable coup de poignard dans le cœur d'un vieux père. Et là, j'aime le commentaire qu'ont fait cet homme de Dieu, Tozer, dont je lisais déjà une citation, je crois, ce matin. Écoutez cela. Abraham était vieux à la naissance d'Isaac, assez vieux pour être son grand-père. Et l'enfant devint aussitôt les délices de ses vieux jours et l'idole de son cœur. Dès l'instant où il se pencha pour prendre maladroitement le petit être dans ses bras, il devint l'esclave de son fils, dans un amour ardent pour lui. Dieu prit la peine de souligner la force de cette affection. Il n'est pas difficile de comprendre cela. L'enfant représentait tout ce qu'il y avait de sacré aux yeux de son père. Les promesses de Dieu, l'alliance, l'espoir de toutes ces années, le long rêve messianique. En le regardant grandir de l'enfance à l'adolescence, le cœur du vieil homme était de plus en plus mêlé à la vie de son fils, jusqu'à ce que finalement leur relation prît un tournant dangereux. C'est alors que Dieu entra en scène pour sauver le père et son fils des conséquences d'un amour exclusif. Et en fait, et c'est moi qui l'ajoute, Morija, c'est le test suprême. Qui est le plus précieux trésor d'Abraham? Est-ce que c'est le don? Ou est-ce que c'est le donateur? Et là, c'est Dietrich Bonhoeffer qui prend le relais de Tozer, ce théologien protestant allemand, mais aussi résistant courageux qui lui valut d'être finalement exécuté sur les ordres directs de Hitler après avoir vécu quelque temps au cachot, puisqu'il avait osé résister au nom du Seigneur. Ah, la folie d'Hitler! Et il a écrit un certain nombre de lettres assez extraordinaires du fond de sa prison avant de mourir, et Dietrich Bonhoeffer écrit notamment ceci. Abraham descend de la montagne avec Isaac, comme il y est monté. Mais toute la situation a changé. En termes du Nouveau Testament, Abraham avait mis sa précieuse relation avec Isaac sous la seigneurie de Christ. Elle était désormais en Christ. Christ avait pris place entre le Père et le Fils. Abraham avait tout quitté, suivi Christ. Et alors qu'il marche sur ses traces, il lui est permis de retourner dans le monde et d'y vivre comme il avait fait autrefois. Extérieurement, le tableau est le même, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a dû passer par Christ. Voyez-vous, c'est sur le sommet de la montagne, c'est au pied de l'autel du sacrifice, qu'Abraham, le père des croyants, a conquis de haute lutte son plus beau titre de noblesse spirituelle, puisqu'à deux reprises, il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Il a mis le Fils sur l'autel. Et voyez-vous, vous et moi, comme finalement l'humanité tout entière, est tellement précieuse au cœur de Dieu. Dieu veut tellement que tous les hommes soient sauvés qu'il a mis son Fils bien-aimé sur l'autel pour que nous puissions être sauvés. Alors dans cette galerie de personnages, nous pourrions, mais sans nous y attarder, dire un mot du torrent de Kérite de Joseph. Parce que Joseph aussi a eu un torrent de Kérite. Et le torrent de Kérite de Joseph, c'est le chef des échansons. Vous connaissez l'histoire du chef des échansons et du chef des panetiers qui se retrouvent donc en prison pour avoir mal effectué leur service auprès de Pharaon. Qui chacun font leur propre rêve. Le rêve de l'échanson doit aboutir de manière très favorable, et c'est Joseph qui, tout en étant emprisonné, est chargé de veiller sur les autres et qui sait les observer et deviner aussi leur situation et leurs problèmes, et qui va donc interpréter de la part de Dieu le contenu de ses songes. Le rêve du panetier sera terrible dans ses conséquences, puisqu'il lui vaudra d'être exécuté par les tortionnaires, les sbires de Pharaon. Et avant que le chef des échansons ne quitte la prison, Joseph, qui aligne les petits traits sur les murs de la prison, n'est-ce pas, pour compter les jours, lui donne un message. Il dit, écoute, quand tu vas entrer dans la présence de Pharaon, d'autant plus que l'issue sera favorable, ça c'est moi qui l'ajoute, souviens-toi de moi dans ta bonté. Je veux, en quelque sorte, pouvoir compter sur ta fidélité à mon égard. Le terme hébreu est très beau, c'est un des termes les plus beaux de l'Ancien Testament, dans le texte de Genèse 40. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Montre que je peux compter sur toi, que ton amour est constant, désintéressé, profond, loyal à mon égard. Alors, dis un mot, plaide en ma faveur auprès de Pharaon. Et bien entendu, pendant que Joseph disait cela, je peux imaginer que son cœur battait très fort, parce qu'il pouvait anticiper dans son esprit l'avenir. La porte de la prison s'est refermée. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, chaque trait qu'il gravait sur le mur pour compter les jours jusqu'à sa libération avait beaucoup plus de poids que jamais jusque-là, parce que chaque jour, il se disait, bon, Maintenant, j'ai de l'espoir. J'ai quelqu'un qui va plaider en ma faveur, d'autant plus que j'ai interprété son rêve. Et puis, voyez-vous, vous le savez, il a d'abord gravé quelques 360 traits. On parle en année lunaire. C'était déjà beaucoup, hein? Et pourtant, il allait encore en graver 360 autres. Parce que les chansons l'oublia. Et je peux très bien croire que, au fil des mois qui s'écoulaient, et pendant que les traits se gravaient sur le mur de la prison, peu à peu, il se rendait compte que ce n'était pas sur les chansons qu'il devait s'appuyer, mais sur l'Éternel. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, dans la prière de Joseph, les mots ont changé, parce que sa pensée a changé. Et au lieu de dire « Ô Seigneur, fais ceci ou fais cela », il a orienté sa prière de manière à dire « Seigneur, c'est sur toi que je compte ». Parce que peu à peu, le torrent de Kérit, qui s'appelait « Les chansons du roi », s'est desséché. Et c'est au bout de 2 ans qu'alors Dieu est intervenu. Parce que c'était l'heure de Dieu, c'était le temps de Dieu pour qu'il prenne cette place de premier ministre qui allait être tellement importante et à cet âge qui est aussi un âge crucial de 30 ans. Et vous connaissez la suite. Vous savez combien nous sommes capables de nous investir dans les autres, au point que c'est finalement sur eux que nous nous appuyons, plutôt que sur le Seigneur. Oh, je pense ici encore aux amis de Job. Job qui touche le fond du gouffre à cause de ses amis. Oh, il n'a pas été épargné. Tout d'abord, dans ces catastrophes, à la fois matérielles et humaines, sa famille étant subitement totalement décimée, famille, semble-t-il, très unie. Et puis ensuite, dans son corps. Et puis dans sa vie conjugale, puisqu'il y a à un moment donné distanciation dans sa relation avec l'épouse qui, ne comprenant pas, le pousse à la rébellion. C'est très dur. Quand le plus proche des prochains ne comprend plus et tire dans l'autre sens. Et puis alors le glas va sonner lorsque ses compagnons vont pendant 7 jours se tenir dans le silence, et c'est ce qu'ils ont fait de bien, il le leur dira. Mais le problème, c'est peut-être ce qui a accompagné le silence. Parce que le silence est porteur d'un message. Et on peut entrevoir, à cause de leurs propos par la suite, que le silence était associé peut-être à un regard qui n'était pas forcément celui de la tendresse, de l'amour. Un regard quelque peu trouble, scrutateur. Ce regard qui cherche à voir la faille, qui soupçonne que quelque chose n'est pas correct dans la vie de ce Job, parce que l'équation est toute simple, c'est l'évangile de la prospérité, le faux évangile de la prospérité. Il a péché. Dieu le prive de bénédictions matérielles, y compris dans son corps, dans sa vie de famille, dans sa santé. Qu'il revienne et tout sera réglé. Il retrouvera le bonheur, il retrouvera ses richesses. Et je peux comprendre qu'au bout de 7 jours de ce silence, chargé certainement déjà de tout un message problématique, Job explose. pour dire son regret d'être un jour sorti du sein maternel. Et alors vous connaissez toute la suite et comment ce torrent de kérite amitié va s'assécher rapidement. Vous connaissez ces textes, je vous les livre, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères, écoutez ça, mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite, viennent les chaleurs et ils tarissent, les feux du soleil et leur lit demeurent secs, les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas, vous persécutez votre ami. Job 6, 14 à 21, verset 27. Curieux, n'est-ce pas? Que finalement, Job en vienne à comparer ses chers amis du passé à un torrent qui, après une surabondance, disparaît, occasionnant la mort tragique des caravanes qui savent l'existence du torrent, mais qui le trouvent sec sur leur itinéraire. Ce fut une dure école pour Job que celle de l'amitié perdue. Mais c'est aussi ce qui lui conduisit, parce que privé du torrent perfide et éphémère, ce qui le conduisit à se tourner vers la source avec un grand S. Et je vous le livre ici. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Il a éloigné de moi mes frères. Mes amis se sont détournés de moi. Ce sont des extraits de Job. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Quelle est la suite? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je peux les perdre tous. Il se lèvera le dernier. Le dernier. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ce sont des extraits du chapitre 12 au chapitre 19. Privé de tout appui humain, la fidélité de Job a pu briller de l'éclat le plus pur. Les torrents de l'amitié se sont asséchés, mais le ruisseau de Dieu était toujours plein d'eau. Et cet homme de piété du XVIIe siècle décrire « Votre ami vous a-t-il trompé? Peut-être vous reposiez-vous trop sur lui. » Dieu dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, Michée 7.5. Peut-être placiez-vous en cet ami plus de confiance que vous n'êtes prêt à accorder à Dieu. Les amis d'un homme sont comme des vers. Les vers V-E-2-R-E-S. Il peut les utiliser, mais non pas s'y appuyer, ou il se brise sous son poids. Si vous multipliez le poids qui repose sur les murs, ils ne peuvent plus le supporter, la maison s'écroule. C'est ici un sujet de grande humilité et non une cause de mauvaise humeur et de mécontentement. Alors il se pourrait que Dieu vous parle de vos amis. C'est beau cadeau de Dieu, mais qui, finalement, à un moment donné, quelque part, se sont glissés entre votre Seigneur et vous. Et vous connaissez un malaise maintenant. Il y a peut-être même des tensions qui se sont installées, qui vous font souffrir, et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Et Dieu vous dit peut-être cet après-midi, mais le langage, c'est ce que tu viens d'entendre. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, nous allons nous arrêter là. Et simplement, j'énumère sans aucun commentaire les autres expressions actuelles du torrent dans notre vie, pour que vous puissiez d'une part y réfléchir, et que d'autre part, si vous le souhaitiez, si vous en avez l'envie et la possibilité, que vous vous procuriez le livre, puisque nous examinons dans le livre ces différents torrents qui, dans nos vies, s'assèchent un jour, parce qu'ils deviennent idoles, alors qu'ils étaient au départ merveilleuses bénédictions de la part de Dieu. Ce torrent, bien sûr, ça peut être le torrent de nos donateurs, et ceci est fortement valable quand on est, là aussi, dans le service de Dieu, d'une manière particulière, et où finalement, on veut dépendre plus des hommes que dépendre de Dieu. Et la tentation est grande. Que de scandales liés au fait que le donateur prend tellement d'importance aux yeux de celui dont Dieu se sert, que le message finit par être écrémé de ces vérités difficiles à lire. On finit par édulcorer la richesse du ministère parce qu'il faut plaire, parce qu'on vise le portefeuille et que sais-je encore. Et puis il y a la foi, curieux, hein, la foi, les dons spirituels, ou les dons de service, les dons de la grâce, je préfère de loin ces expressions, les actes de piété, parce que je peux me projeter, me mirer, m'admirer dans le torrent de ma foi, de mes dons spirituels, de mes actes de piété. Nous pourrions parler de tous ces mécanismes, qui sont d'ailleurs sensibles dans la rédaction des lettres circulaires, des lettres d'information, de la publicité évangélique ou des livres évangéliques. Ou finalement, c'est plus la prière en elle-même, la louange en elle-même, la lecture de la Bible en elle-même, l'évangélisation en elle-même, qui sont prônées, mises en avant, idolâtrées, alors qu'on perd de vue le Seigneur. Je pense à ce petit livre très bien présenté qui bat des records dans le monde entier, dans toutes les traductions concernant la prière de Jabez, dans lequel il y a certes ici et là quelques vérités bienfaisantes, mais étroitement mêlé à un enseignement perfide, qui, lorsqu'on termine ce petit ouvrage, ne nous conduise pas à exalter le Seigneur, mais surtout à vouloir absolument mettre en pratique la recette qui figure dans le dernier chapitre. Le truc pour que Dieu soit obligé d'exaucer nos prières à tous les coups et qu'on ne soit jamais malade et qu'on n'ait jamais certains problèmes, etc., etc. Volontairement, je prends quelques raccourcis. Mais c'est ça. Et mes amis, nous, évangéliques, qui désirons tellement être fidèles au Seigneur, nous sommes parfois tombés dans le panneau à fond. À fond. Sans réaliser que, hélas, quoique ce livre soit écrit par un docteur en théologie, ce n'est pas une référence au regard de Dieu, si ça l'est au regard des hommes. Vous savez que notre prière n'a de valeur que à cause de lui. C'est lui qui répond. Elle n'a aucune valeur intrinsèque en elle-même. Sinon, nous sommes des fétichistes. Il existe un fétichisme évangélique. Nous aurions pu évoquer longuement non seulement ce thème, mais évoquer nos expériences d'hier. Nous l'avons dit, je peux être tenté de construire un barrage pour accumuler les expériences bénies du passé. Et c'est aussi ça, le torrent de Kérit. On peut vivre sur l'expérience du passé. Et vous savez que l'eau accumulée, regardez un peu ce qui se passe, tout près d'ici, les odeurs nauséabondes qui viennent de la sécheresse sur de l'eau stagnante, C'est épouvantable, hein. Je ne sais pas de quel côté ça se situe là. Je me situe mal, c'est par là. Ouais. Eh oui, dès que l'eau s'accumule derrière les barrages que nous fabriquons, elle engendre un tas de problèmes. Nous aurions pu évoquer notre affectivité, nous aurions alors passé du temps, cela mérite une seule réunion. Pourquoi ? Parce que notre affectivité, le monde de nos émotions, de nos sentiments, c'est un torrent qui peut passer du débordement, d'ailleurs même ravageur, pensez à ce qui se passe avec les rivières du sud de la France, par moments, hein, et qui, quelques heures plus tard, est complètement à sec. Pensez à l'affectivité d'un certain Simon-Pierre, lorsque Jésus rassemble ses disciples autour de lui pour leur dire que maintenant le moment est très proche, où après avoir été trahi, il va monter sur la croix. Et où Simon-Pierre, le Lucky Luke de l'époque, n'est-ce pas, qui pensait moins vite qu'il ne parlait, va faire cette déclaration solennelle, ce serment, quand tous te trahiraient, moi je ne te trahirai pas. Acte ou parole de piété, confession de foi, déclaration de fidélité qui s'appuie sur les sables mouvants de l'affectivité. Et vous retrouvez, peu de temps après, le même Simon-Pierre, avec ses copains, dans le jardin de Gethsémané, qui entend Jésus dire, mais veillez et priez. La chair est faible. Le cœur peut être bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Et chaque fois qu'il revient, il les trouve endormis. Simon-Pierre fait dodo, lui qui a affirmé sa fidélité jusqu'à la mort, que tous les autres l'abandonneraient, il roupille, et peut-être qu'il ronfle de manière absolument incroyable, n'est-ce pas? Et vous le retrouvez un petit peu plus tard, vous savez où, hein? Se réchauffant les mains auprès d'un feu, en train de jurer que surtout il ne fait pas partie de cette bande, avant de verser ses larmes au chant du coq. Voyez ce qu'est la piété lorsqu'elle s'appuie sur le torrent éphémère de l'affectivité. Lorsque vient l'épreuve, lorsque vient l'orage, lorsque la nuit s'installe, lorsque l'arrestation et les procès se succèdent, que reste-t-il de ce genre de torrent-là? Et voyez-vous, le drame, c'est que nous vivons dans un monde qui est tellement sevré d'affection à cause de la dislocation des familles, de l'absence de la maman au foyer, de l'affection d'un père, mais doué de cette colonne vertébrale tellement nécessaire pour un amour qui sache dire non. Alors on vit une affectivité complètement déréglée, une soif, on est une éponge aujourd'hui, comme jamais, et puis tout cela est exacerbé à cause de cette philosophie et psychologie humaniste où il faut se faire plaisir, il faut être bien dans sa peau, n'est-ce pas? Mais mes amis, tout ça, ce sont des torrents éphémères. Alors on se tourne vers Jésus-Christ, puis on transpose, on amène dans l'Église ces conceptions de l'importance de l'affectivité. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il est question de l'amour. Dans les Écritures, il est question de l'amour. L'amour, 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 encore. Mais on ne conçoit l'amour qu'en affectivité. Alors que l'affectivité de l'amour n'est qu'un des aspects et n'est pas l'aspect fondamental de l'amour. Parce que l'amour, dans son fondement, se situe au niveau du cœur, c'est-à-dire dans les Écritures, de la volonté, de l'épicentre de notre personne. Si l'amour de Dieu n'avait été qu'un amour affectif, croyez-moi, il n'aurait jamais envoyé son Fils. Mais l'amour de Dieu a été l'amour volontaire. Et l'amour du Fils a été l'amour volontaire pour nous. Il a pris la décision. Personne ne l'a obligé. Et le Père n'a pas obligé le Fils. Ça, c'est l'amour. Mais nous avons de telles conceptions fausses de l'amour, tellement centré sur l'affectif que, bien entendu, puisque c'est aussi fluctuant que n'importe quel torrent, surtout les torrents des pays chauds, notre vie est d'une instabilité terrifiante, nos engagements ne tiennent pas la route, et dans le mariage, au bout de 3 ans, parfois même de 3 mois, nous nous tournons vers l'autre pour lui dire « Tu sais, puisque je ne t'aime plus, on se sépare. » Que de drame. Vous voyez que nous touchons à des choses clés. Nécessité de nous appuyer sur celui qui seul demeure, qui ne s'inscrit pas dans l'éphémère, le Dieu éternel, et dont les bénédictions sont éternelles. Et nous ne devons pas transformer ces bénédictions en quelque chose qui devient finalement une malédiction dans notre vie. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dieu nous le dit, Dieu me le dit. C'est une leçon que nous apprenons tout au long de notre vie. Nous n'avons jamais fini de l'apprendre. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons vraiment te considérer, toi, comme le véritable torrent de notre vie. Ton ruisseau à toi est plein d'eau. Merci, Seigneur, pour cette capacité extraordinaire que tu as de nous rassasier intérieurement, toi seul, et en même temps de continuer à attiser, à aiguillonner notre soif de ta personne et de ta présence. C'est une soif permanente qui s'installe dans nos vies que seul le péché, sous toutes ses formes, vient troubler. Et misérables sommes-nous lorsque, nous étant éloignés de toi, nous arrivons à un tel point que nous ne ressentons même plus la soif pour toi. Seigneur, visite-nous. Tu as voulu, durant ce week-end, t'adresser à nos cœurs, à mon cœur, afin que nous apprenions la fidélité en comptant sur ta fidélité. Maintenant, Seigneur, continue à appliquer à nos vies personnelles, concrètes, ce que nous avons partagé. Et Seigneur, ce que je te demande pour nous tous, et pour chacun personnellement, c'est cette droiture de cœur, cette limpidité intérieure, cette intégrité, cet amour de la vérité, sur lesquels tu peux travailler à transformer nos existences, à régner en nous.